carnet de campagne. Bonjour, deuxième journée en Haute-Loire, département que nous avons assez rarement traversé comme s'il échappait au radar de l'innovation et des alternatives de vie. Pourtant, celles-ci ne manquent pas. Parmi elles, des petites histoires plutôt réconfortantes pour ces ruralités à la limite du décrochage. Exemple, le village de Saint-Front, 400 et quelques habitants dans l'ancien canton de Mézin et la fermeture annoncée de la boulangerie, de la boucherie du village également. Et depuis juin dernier, sont pourtant deux jeunes femmes du bourg, l'une d'aide à domicile, l'autre assistante commerciale, qui ont pris sur leur emploi du temps pour ouvrir une nouvelle boutique qu'elles ont appelée le Petit Bazar à R, pour les initiales de leur prénom et de leur nom, qui fait office de dépôt de pain, de viande et de produits du terroir. François ajoute dans son courrier que le bistrot du village va subir le même sort d'une fermeture assurée, et les deux amis ont obtenu le soutien de la mairie, là encore, pour reprendre l'activité. Autre déclinaison féminine du renouveau des campagnes, Christelle Janet, lainière dans le village de Saint-Privat-du-Dragon, qui met un point d'honneur à valoriser la laine des moutons auvergnats. Elle est notre première invitée. Et puis décidément très féminin, ce carnet donnera ensuite la parole à Aurélie Verneret, naturopathe qui intervient auprès des plus jeunes comme des plus âgés, ainsi qu'auprès de femmes détenues.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Christelle Janet, bonjour.
Bonjour.
Certains filent un mauvais coton dans la vie, hélas. D'autres filent une belle laine, et c'est votre cas.
Oui, tout à fait.
Ouais. Vous découvrez ce monde-là en 2004 ?
Oui, ça date un petit peu, et puis il m'a fallu après, derrière, beaucoup de rencontres et de chemins avant de créer réellement mon entreprise.
Mmh. C'est un peu osé, hein, en plus de ça, dans une entreprise qui, normalement, reste très artisanale et un petit peu oubliée.
C'est pas le choix le plus facile, en effet, mais c'est ça aussi qui rend l'activité intéressante. C'est avant tout un métier passion.
Il y avait en Auvergne, chez vous, et en Haute-Loire, et à Saint-Privat-du-Dragon, des éleveurs.
Alors oui, moi, mon choix s'est porté sur les entreprises et sur les élevages autour de chez moi. Donc j'ai choisi de travailler avec deux races bien spécifiques qui sont la Noire du Velay et la Bizet et qui ont la particularité d'être naturellement colorées. Donc c'est pour leur couleur que j'ai choisi de travailler avec.
Il y a souvent des problèmes de transformation sur place et on est obligé d'emmener la laine ailleurs pour qu'elle soit cardée, ensuite éventuellement teinte. Enfin, c'est assez compliqué.
C'est toute une aventure, mais ça fait aussi partie de ce qui rend le métier intéressant. Alors moi, ma spécialité, en fait, c'est de travailler sur le tri de laine, c'est-à-dire que je vais le jour de la tonte chez les éleveurs pour sélectionner la laine, selon un cahier des charges assez précis. Et ensuite, je travaille avec des différents opérateurs que j'ai choisis pour leur proximité et puis pour la qualité de leur travail. Donc ça peut être une entreprise qui va me laver la laine, une autre qui va la filer, une autre qui va la tisser, une autre qui va la tricoter. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de pouvoir maîtriser vraiment la filière de transformation et la matière, en partant de la matière brute jusqu'au produit fini.
Alors, Serafita Fibre et Fil est née en 2013, mais c'est encore une jeune entreprise pour vous. Est-ce que le coût de la laine produite en France est abordable ?
Le coût, oui, on arrive à avoir des coûts qui équivalent en fait à des laines industrialisées, on va dire. Enfin, tout simplement, on arrive à être sur les mêmes coûts que d'autres laines, mais en limitant les intermédiaires et en valorisant mieux les différents opérateurs à chaque étape.
Alors, non seulement vous récoltez, vous transformez ces laines, Christelle, mais vous transmettez votre savoir-faire en organisant des stages.
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est important aussi de transmettre tout ce qui est savoir-faire artisanaux et les métiers qui sont vraiment spécifiques à la laine. Et du coup, j'organise, donc je peux faire des animations, intervenir dans des écoles, dans des fêtes, selon les demandes. Mais j'organise aussi des stages, je suis organisme de formation professionnelle. Et par exemple, le prochain stage, il aura lieu en janvier, près de chez moi, donc à La Chaumette, en Haute-Loire. Ce sera du 5 au 8 janvier 2019, et ça sera autour de la teinture végétale, et donc plus particulièrement sur la couleur bleue qui est obtenue à partir de l'indigo.
Ouais. Et animé par Magali Bontou, qui est teinturière. Et alors, je me dis que le précédent stage, la formatrice, c'était Christina Zofal-Wilson, qui est fileuse et feutrière, et des métiers énormément féminins.
Oui, sur les métiers artisanaux, on retrouve beaucoup de femmes, ce qui n'exclut pas en fait les hommes, mais c'est vrai qu'on a tendance à trouver beaucoup plus les hommes sur les entreprises un peu plus mécanisées.
Alors, dans la transformation, Il y a le fil à tricoter que vous mettez en vente, mais vous réalisez vos propres articles aussi.
Oui, voilà. Du coup, j'ai plusieurs produits. Alors, j'ai ce que j'appelle les produits semi-finis, c'est-à-dire des produits qui doivent encore, une fois vendus, être encore un peu transformés, comme le fil à tricoter ou bien du tissu au mètre, par exemple, pure laine. Et puis, après, je vais avoir des produits finis, comme par exemple des plaids tissés, des semelles en feutre, des chapeaux, des bonnets. Et puis, j'ai toute la partie vêtements qui est en train d'être construite et de se développer.
Quand on voit en Ardèche le succès d'Art de Laine, ça vous fait rêver ?
Ah ben c'est une très belle réussite et puis un bel exemple qui tire vers les hauts, évidemment.
Alors vous allez être présente là sur les marchés de Noël, Blesle et à Ambert, 22-23 décembre. Je rappelle le stage sur l'Indigo 5-8 janvier, le Salon de la Laine à Cray dans la Drôme 9 et 10 février. Et puis vous allez participer aussi au village laine du championnat du monde de thon de mouton.
Ouais,
mais ça, j'en ai déjà entendu parler, qui a lieu à Dora.
En Haute-Vienne.
En Haute-Vienne, exact. Ouais. Et donc, si vous voulez avoir des informations, vous allez avoir le courrier électronique, évidemment, avec Serafita Fibre et Fil, et puis le site internet laine-serafita.org. Merci, Christelle.
Eh bien, je vous en prie. Merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
À nos pages d'émission franceinter.fr, carnet de campagne et aussi à la page Facebook, vous allez trouver un lien avec une école de cirque qui est la seule de Haute-Loire qui s'appelle le cirque Ulu Berluge. Vous en direz quelques mots les jours prochains. Mais avant d'accueillir Aurélie Verneret, je vous rappelle le programme qui est un petit peu particulier à partir de la semaine prochaine pour les fêtes de fin d'année, puisque dans la semaine de Noël, nous allons ouvrir à toutes les régions des initiatives avec des portraits. Et vous allez voir les innovations venir de toutes les régions, ainsi qu'au début janvier, la première semaine de janvier. Et puis ensuite, nous traverserons la Lozère, le Pas-de-Calais, le Nord, Lyon, et j'annonce avec un petit peu d'avance les départements de la Nièvre, du Cher, de la Manche et de l'Orne. Je les répéterai, j'espère que vous avez pu prendre note pour commencer à nous écrire depuis ces départements. Aurélie Verneret, bonjour.
Bonjour.
Aurélie, on vous rejoint à Monistrol sur Loire. Vous avez été éducatrice spécialisée et aujourd'hui vous êtes naturothérapeute. On va parler de la naturothérapie et déjà préciser ce que cela sous-entend.
Alors, la naturothérapie, c'est une méthode basée sur les principes de la naturopathie, qui est une médecine non conventionnelle naturelle, et la thérapie, qui est un accompagnement de la personne sur un plan psychologique.
Et comment ça se concrétise avec le patient, la personne? Et on va parler des enfants, des adultes et des personnes âgées avec vous.
Alors, comment ça se concrétise? Ma manière de travailler, c'est sous forme de séances individuelles. Donc là, je reçois la personne, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un adulte ou de parents ou de couples. Hein. Mmh. Et là, donc dans le cadre des séances, je vais soit accompagner la personne plutôt sous la casquette de la naturopathie, ou plutôt sous la casquette de thérapeute autour d'une dynamique de changement. Moi, je pratique du massage également, de la réflexologie plantaire. Alors, je précise, massage de relaxation et énergétique. Ça va être aussi basé sur de la stratégie de communication et d'écoute, où je vais amener la personne à exprimer ses ressentis et lui permettre de mettre du sens sur son comportement.
Alors ça veut dire par exemple contrôler ses émotions?
Alors avant de les contrôler, il y a les accueillir. Il y a accueillir ses émotions, comprendre ses émotions. Parfois les personnes me disent je suis très en colère, voilà, on va parler de la colère. Et puis finalement, au fil de l'entretien, c'est pas la colère qui ressort, ça sera plutôt de la tristesse ou ce sera plutôt de la peur, mais qui s'exprime sous forme de colère. Et du coup, c'est aller à la rencontre de l'émotion véritable qui est là et qui amène la personne à avoir un certain comportement.
Et là où votre activité devient encore plus originale, c'est lorsqu'elle s'adresse à des collectifs. Alors ça peut être auprès des enfants, à travers des ateliers collectifs, des adultes. Vous intervenez aussi à l'EHPAD, la maison donc de retraite de Voray, où vous animez des ateliers du haut bien-être. Et vous intervenez aussi en maison d'arrêt.
Alors ça, c'est le deuxième point de mon activité, en effet. Donc les séances collectives... J'aime utiliser des outils communs. Quand je dis outils, c'est des techniques. Hein. On est toujours sur des jeux de régulation émotionnelle, d'expression et de régulation émotionnelle ou de relaxation de bien-être. Et je m'amuse à les adapter en fonction du public auprès duquel j'interviens. Et c'est toujours de belles rencontres, des moments forts et chaleureux qui nourrissent vraiment la relation positive entre les membres du groupe, quels que soient les participants.
Oui. À l'EHPAD de Voray, vos ateliers du haut bien-être font intervenir les résidents, mais aussi leur famille, d'où le duo.
C'est ça, tout à fait. C'était une demande de l'animatrice de l'EHPAD, avec qui on s'est mis d'accord pour mettre en place ces ateliers. Et l'objectif, c'est de renouer un contact et la relation entre le résident et un membre de sa famille. Mmh. Donc ça peut être un des parents, ça peut être les enfants, pardon. Et ça permet aux enfants, en tout cas, pour les séances qu'on a vécues, de pouvoir recréer du lien avec leurs parents, de qui ils sont séparés. Mmh. Tout ça par le contact, par le massage. On utilise beaucoup le massage.
Mmh. Et vous venez de terminer la rédaction d'un livre, L'émotion filante, destiné aux enfants.
Oui, c'est ça. Donc, il est terminé. Et là, il me reste à trouver un éditeur pour pouvoir le mettre à la disposition de tous. C'était un moyen pour moi de transmettre plus généralement ce que je fais déjà auprès des enfants, des parents et des enseignants dans les écoles et de le diffuser, de permettre à chacun d'avoir accès à ces outils pour que chacun puisse cultiver et développer l'intelligence émotionnelle dans son cœur et dans son foyer.
Bon, on va suivre l'aventure du livre alors. Si vous voulez entrer en contact avec Aurélie, vous allez trouver ses coordonnées à nos pages d'émission et nous serons bientôt lecteurs donc de l'émotion filante. Signé Aurélie Verneret. Merci Aurélie.
Eh bien, merci à vous pour votre accueil.
Avec plaisir.
Bonne fin de journée.
À vous aussi. Au revoir. Demain, nous allons consacrer notre carnet à la Fondation FAMAE, que l'on ne connaît pas encore, et qui lance un grand concours international au profit de l'eau pour la vie de tous. Demain, donc, invité des carnets, Éric Philippon, fondateur de FAMAE.